Donc c'est chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, c'est ce qu'on appelle communément le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne. Et nous sommes arrivés la semaine dernière au 16e verset de ce chapitre 5. Nous allons lire les versets 17 jusqu'au verset 20. Matthieu, chapitre 5, verset 17 jusqu'à 20. Écoutons la parole de Dieu. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui observera, qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous venons à tes pieds pour réclamer ta direction et l'illumination de ton esprit afin que nous puissions comprendre ta parole et que nos cœurs puissent s'y soumettre. Garde-nous et dirige-nous pour ta gloire. Amen. Voilà, donc vous rappelez que nous avons dit au tout début, quand nous avons commencé l'évangile de Matthieu, que le thème général, c'est que Matthieu présente Jésus comme le Messie promis, celui qui doit venir, le Messie qui doit venir pour bénir son peuple. Et lorsque vous lisez dans l'évangile de Matthieu, vous trouvez beaucoup d'endroits où il est question d'accomplissement de la loi. Et ce que Matthieu fait, il montre que vraiment, conformément à la loi, Jésus et aux promesses qui ont été faites, Jésus est bien celui qui avait été promis. Et donc, il dira à plusieurs moments, afin que s'accomplisse ce qui était écrit dans la loi, afin que s'accomplisse ce qui avait été prononcé par les prophètes. Donc, il présente Jésus avec comme toile de fond la loi, les textes, les prophéties, pour montrer qu'il est bien celui qui devait venir, afin, bien sûr, que les Juifs croient que le Messie, que Jésus est bien celui qui avait été promis. Il est celui que Dieu a oint, celui qui est prévu pour sauver les hommes de leurs péchés. Et donc, la loi de Dieu, hein, on pourrait dire ici, est au cœur de ce que Matthieu veut révéler. Et ici, dans cette section que nous lisons, on voit que il est question de la loi. Parce que Jésus dit, je ne croyais pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc il y a encore question ici de l'accomplissement de la loi et des prophètes. Et si quand nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons que la loi de Dieu est au cœur de l'opposition qu'il y a eu entre Jésus et le peuple juif, les pharisiens, et les scribes et les principaux du peuple. C'était toujours quelque chose en rapport avec la loi qui était au centre de l'opposition, des controverses entre eux. Donc, les docteurs de la loi, la Bible parle beaucoup des docteurs de la loi, ils ont maintes fois essayé de le prendre en défaut dans son observation de la loi. Hein, ils posaient des questions, la Bible dit, c'était des questions pour l'éprouver et pour l'accuser. On l'a accusé d'avoir violé le sabbat. Hein. Donc vous voyez, il y avait toujours cette loi là sous-jacente, on pourrait dire la manière de vivre, d'observer, de réaliser cette loi, de l'enseigner, était ce qui était au cœur de leur discussion. Donc la question, on pourrait dire, d'une vie juste qui permet d'être agréée par Dieu est au cœur de toute la confrontation entre Jésus et les différentes composantes de du peuple juif. Comment plaire à Dieu? Pour les juifs, ils répondraient à cette question, il faut obéir à sa loi. D'accord? Et donc, eux faisaient tous les efforts pour obéir à la loi de Dieu. Et donc, la question cruciale, bien sûr, c'est celle de la réalisation pratique de la loi dans la vie, ce qu'on appelle généralement la justice. Jésus termine cette section en disant, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Mais cette question de la loi, de son enseignement, de son observation, demeure aussi importante pour nous, en tant que chrétiens. On ne peut pas dire, ça c'était une question qui intéressait Jésus et les juifs de son époque, moi maintenant la loi et les prophètes et tout cela, ça ne me concerne pas trop aussi. Il y a de ceux qui disent que maintenant nous avons le Nouveau Testament, donc tout ce qu'on appelle la loi et les prophètes, ça ne nous concerne plus. Nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Parfois on brandit ce verset pour dire que, et puisque l'on fait en général, on trouve que les textes de l'Ancien Testament sont un peu difficiles à lire. Le Lévitique, tout ça, avec beaucoup de symboles, etc., de sacrifices, on ne comprend pas toujours à quoi ça correspond. Et on se dit, après tout, ce n'est pas pour nous. Peut-être qu'il vaut mieux se concentrer sur le Nouveau Testament. Et puis, de notre côté, il y a aussi ceux qui veulent faire un mixte des deux, pour un petit peu de l'Ancien Testament, un petit peu du Nouveau, on mélange ça, on prend quelques commandements de l'Ancien Testament et on essaye de les appliquer tous à notre époque. Et ça n'est pas non plus ce que la Bible nous enseigne. Alors, ce que j'ai donné comme titre ici à ce message ce matin, c'est Christ, les disciples et la loi. Christ, les disciples et la loi. Parce que ce passage concerne Christ, il parle de lui-même, de ses disciples, et puis du rapport qu'ils doivent entretenir avec la loi. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Puis au verset 18, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas un seul iota ou un seul trait de lettre, la plus petite lettre de l'alphabet, il ne disparaîtra pas un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir. » Cela laisse entendre peut-être qu'il y avait des personnes qui pensaient que Jésus allait abolir la loi. Donc ce que Jésus fait ici en premier lieu, c'est qu'il va montrer la validité permanente de la loi. Il montre premièrement la validité permanente de la loi. Il dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Qu'est-ce que la loi et les prophètes? Alors, on trouve plusieurs fois cette expression dans le Nouveau Testament. Par exemple, en Matthieu 20, Jésus parle des commandements. Il parle des commandements d'amour pour Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et puis, il parle des commandements de l'amour pour le prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis, il dit, de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes, ici. Donc on trouve cela à plusieurs endroits dans l'évangile, dans le livre l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul, en parlant du cœur de la justification par la foi, dit « Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » Donc il dit cette justification, cette justice de Dieu qui s'obtient par la foi, la loi et les prophètes aussi rendent témoignage de cela. La loi, on pourrait dire, exprime l'ensemble des lois morales, législative et puis cérémonielle de l'Ancien Testament. Et les prophètes, bon, on comprend, c'est l'ensemble de tous les écrits prophétiques de l'Ancien Testament. Et les prophètes avaient le ministère d'enseigner le peuple et puis de le ramener souvent à l'obéissance de la loi. Il le faisait souvent voir leur écart par rapport à la loi et les ramenait à l'obéissance par rapport à cette loi. Et puis aussi, il leur était donné de la part de Dieu d'annoncer des choses qui devaient arriver. Donc on pourrait dire que globalement pour nous, on pourrait prendre comme la loi et les prophètes l'ensemble de l'Ancien Testament. Et certainement la manière de parler de Jésus, sa façon de mettre en contraste la loi avec son enseignement, sa pratique de la loi, pouvait laisser entendre, peut-être à certains, qu'il n'était pas d'accord avec ce qui était dans la loi. Et il n'en était rien. Donc, il y avait beaucoup d'étonnement autour de sa doctrine. Marc chapitre 1 dit « Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. » D'un côté, ils avaient les scribes qui s'appuyaient sur la loi et qui enseignaient à partir de la loi d'une certaine manière. Et puis Jésus qui arrive, et puis on ne sait d'où vient son autorité, et puis il enseigne d'une manière complètement différente. Et puis il dit, comme on dit dans les versets plus bas, « Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis, alors... » Peut-être que les gens se sont posé la question, mais est-ce que c'est une nouvelle doctrine? Quelqu'un avait posé cette question. Est-ce que c'est une nouvelle doctrine? Comment est-ce qu'on doit comprendre tout cela? Il y avait beaucoup de discussions autour de ces actes par rapport à la loi. Il y avait une controverse qui s'est installée par rapport à une guérison le jour du sabbat. Vous vous rappelez ça dans Marc chapitre 2, verset 23. Donc on va pas lire. Les gens, ils étaient frappés. Ils disent, mais d'où vient cette doctrine, hein? Donc, il y avait un débat après entre les juifs et Jésus parce qu'il avait fait ce miracle le jour du sabbat. Donc ils ne respectaient pas pour eux, en tout cas, le sabbat parce qu'ils œuvraient le jour du sabbat. Et dans Jean chapitre 9, verset 29, les Juifs, lors d'une guérison aussi de l'aveugle-né, vous vous rappelez que les Juifs retrouvent cet homme qui a été guéri, et puis ils lui disent, mais qui est-ce qui t'a guéri? Raconte-nous encore cela. Il dit, mais je vous ai déjà raconté, est-ce que vous voulez être son disciple? Et puis il dit, non, c'est toi qui es son disciple. Et ils disent, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Et donc, Dieu a parlé à Moïse, c'est-à-dire qu'il y avait la loi de Moïse, mais celui-ci, là, on ne sait pas avec ce qu'il enseigne, ce qu'il fait, on ne sait pas d'où il vient. Donc, une chose qui pourrait être tirée comme conclusion de tout ça, c'était peut-être que, il fait des choses, il apporte autre chose, ce qui était avant n'existe plus, et puis c'est maintenant la nouvelle doctrine qu'il est en train d'apporter, à laquelle il faut s'attacher. Mais Jésus dit non, pas du tout. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. La loi est permanente. Au moins ici, jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc il dit ici que la loi a une validité permanente. Il affirme donc la validité permanente de l'Ancien Testament. Et il dit même qu'elle est garantie par la permanence du ciel et de la terre. Il dit, tant que le ciel et la terre ne passeront point, d'accord. Verset 18, quand je vous le dis, avec une formule d'autorité, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Il n'y aura pas absolument rien, même la plus petite lettre ne disparaîtra pas tant que le ciel et la terre demeureront. C'est-à-dire que vous pouvez regarder aussi longtemps que la terre et le ciel existe, eh bien, aussi longtemps cette parole demeurera. Et donc, il prend un peu la permanence, on pourrait dire, de la création pour illustrer et certifier la permanence de la parole de Dieu, la permanence des écrits de l'Ancien Testament. Il y a une autre fois où c'est utilisé un peu, la permanence de la terre est utilisée comme illustration dans Genèse chapitre 8 verset 22, vous vous rappelez où Dieu dit tant que, par l'intermédiaire de Moïse, tant que la terre subsistera après le déluge, donc tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson et le froid et la chaleur, et l'été et l'hiver et le jour et la nuit ne cesseront point. Alors on se bat beaucoup aujourd'hui pour sauver la planète et puis empêcher le réchauffement climatique, etc. Mais Dieu dit ici, tant que la terre subsistera, il y aura des semailles, il y aura de l'hiver, il fera froid l'hiver, il fera chaud l'été, et le jour et la nuit ne cesseront point. Il garantit cela, et il dit, vous pouvez compter là-dessus tant que la terre existe. Hein. Et donc là, il dit la même chose, ce n'est pas nos écologistes qui vont pouvoir sauver quoi que ce soit, c'est parce que Dieu tient sa promesse et qu'il montre comment il la tient. Il dit, tant que la terre sera la personne, ne peut faire disparaître la terre. Il dit, tant qu'elle est là, vous pouvez compter dessus. Et donc, il dit, tant que le ciel et la terre sont là, vous pouvez les voir, eh bien, la parole de Dieu demeure. Et je ne suis pas venu pour l'abolir, bien au contraire, je suis venu pour accomplir. Et donc, il réoriente, on pourrait dire ici, la pensée de ces personnes. Donc, il affirme l'autorité absolue de l'Ancien Testament, ce faisant. Il affirme que les exigences de la loi doivent être remplies, parce qu'il dit jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc tout ce qui est contenu dans la loi, dans le moindre détail, toutes les promesses, toutes les prophéties, tout doit s'accomplir. Il n'y a absolument rien qui ne sera laissé de côté. Il dit que ces choses vont s'accomplir. Et il dit même que c'est lui qui les accomplira, parce qu'il dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi et les prophètes. Et on n'a pas le temps de voir tout cela, mais la Bible montre que, et ce que Matthieu montre, que Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses de la loi. Toutes les promesses de l'Ancien Testament, de la loi, de l'Écriture, sont accomplies en Jésus et Christ. La Bible dit qu'il est né sous la loi, il s'est soumis à la loi. Hein. Il a vécu une vie juste telle que le demande la loi. Il a gardé la loi durant toute sa vie terrestre. Il a accompli même toutes les pénalités qu'exigeait la loi. Romains chapitre 8 nous dit ceci, « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. » Et quand on lit, on a lu Galates chapitre 3, on pourrait lire encore tous ces passages, tous ces chapitres où il est question que Christ, Galates chapitre 3 verset 13, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Hein. Lui-même, il a été fait pour nous malédiction parce que la loi a dit maudit et quiconque est pendu au bois. Et il l'a fait afin que nous puissions, alors regardons juste ce passage, Galates 3, 13, on n'ira pas tout l'ensemble, mais Galates 3, 13, je ne veux pas le dire dans le mauvais sens, il dit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit à quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Vous voyez ? Donc, il a subi cette malédiction de la loi, il a accompli la loi donc pour nous. Il est venu pour cela, pour porter nos péchés en son corps sur le bois, pour prendre la pénalité qui était imposée par la loi de Dieu à cause de notre péché. Et donc, en ce sens, il est l'accomplissement aussi de la loi. Donc, dans tous les aspects, Christ est l'accomplissement de la loi. Il n'est pas venu pour accomplir quelque chose de la loi, il est venu pour accomplir la loi. D'accord. Il est lui-même l'accomplissement de cette loi. Ça, c'est donc Jésus insiste sur la permanence donc des textes, et il dit même donc qu'ils vont durer, il donne la stabilité et la permanence de la création en témoignage de cette permanence de l'Écriture. Et il dit même qu'il est celui qui accomplit cette loi, qu'il est l'accomplissement même de cette loi. Deuxièmement, il parle de que l'on doit avoir une utilisation correcte de la loi. Elle est permanente, mais l'utilisation qu'on doit en avoir est correcte. Regardez au verset, donc on prend donc Matthieu chapitre 5, et regardez au verset 19, il dit « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé petit dans le royaume des cieux, mais celui qui observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Donc, Jésus parle ici maintenant de l'utilisation que l'on doit avoir de la loi. D'accord. Lui n'est pas venu pour l'abolir, pour l'accomplir, mais il dit plus que attention à la manière avec laquelle on utilise la parole, on utilise la parole de Dieu. Et il passe à même à une conséquence, à des conséquences positives ou négatives, on pourrait dire, pour ceux qui utilisent la parole de Dieu, ceux qui utilisent l'Écriture. Il oppose alors deux manières d'utiliser les Écritures. Une première manière qui consiste à supprimer, le sens c'est un peu violer, délier, détricoter, hein, comme on parle en France, on dit voilà, on va détricoter les 35 heures, hein, voilà, on va lui enlever des petites choses pour voilà, pour un peu supprimer cela. Eh bien, il dit celui qui violera, qui déliera, qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé petit dans le royaume des cieux. Donc, il oppose cette première manière d'utiliser la loi qui consiste à prendre ce qui plaît, à enlever ce qui dérange, à ne pas tout accepter dans les détails. Et puis, une attitude qui consiste, il dit, à observer celui qui observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc, il oppose ici deux manières de s'approcher, deux manières de considérer la loi de Dieu. Et c'est important, hein, notre tendance naturelle est de nous approcher de n'importe quelle manière de la parole de Dieu, de considérer ce qui nous plaît, d'avoir notre petit dada, et puis d'oublier le reste. Et c'était un petit peu l'attitude des pharisiens qui avaient ajouter et modifier les choses dans la parole de Dieu. Il parle donc des implications éternelles qu'il y a dans l'utilisation des Écritures. L'importance ici est apportée à l'Écriture dans son ensemble et dans son détail, et Jésus révèle que ceux qui utilisent d'une certaine manière la parole, eh bien, il y aura des conséquences jusque dans le royaume des cieux. Il sera appelé petit, le plus petit ou sera appelé grand. Pas le plus grand, mais sera appelé grand. Donc le plus petit ou grand. Et on apprend que Jésus dit qu'il y a des rangs dans le royaume des cieux. Il y a, c'est ce que l'on comprend ici, hein, qu'il y a des rangs dans le royaume des cieux. Il y a ceux qui seront appelés grands et ceux qui seront appelés petits. Donc c'est un peu difficile, je pourrais pas vous dire à quoi cela va correspondre, mais c'est une parole de Jésus. Et donc elle est vraie. Et elle se réalisera. Il dit, attention, on ne peut pas impunément utiliser de n'importe quelle manière en supprimant des choses de la parole de Dieu. Il faut la considérer dans son ensemble. Il y a des conséquences qui sont liées à la désobéissance et au fait que l'on enseigne aux autres aussi à faire de même. Hein? Et je me rappelle de cette histoire où c'est un frère qui avait raconté cela. Je crois que c'est un pasteur qui disait, bon, dans la Bible, bon, ça, c'est pas très, très important. Ça, c'est plutôt l'Ancien Testament. On savait pas vraiment dire ça. Et c'est pas un passage très important. Il y a pas très longtemps, j'ai entendu quelqu'un qui disait, bon, il y a des choses qui sont pas forcément importantes dans la parole de Dieu. Et puis, cet homme a eu quelqu'un de son église qui, une fois, était hospitalisé. Et donc, il est allé visiter ce malade. Et il dit, bon, on va lire un passage de la Bible. Et quand ce malade prend sa Bible, il y avait plein de pages déchirées dans la Bible. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, mais vous nous aviez dit que ça c'était pas important, alors j'ai arraché la page. Chaque chose n'était pas importante, j'ai arraché la page. Il s'était retrouvé avec un petit volume, hein, comme cela. Il avait mis en pratique, si vous voulez, c'est un petit peu ça, hein. Il dit que c'était pas important, donc il a enseigné aux autres à faire comme il faisait. Hein. Donc ils n'ont pas considéré la parole de Dieu comme il aurait dû, cet homme en tout cas, n'a pas considéré la parole de Dieu comme il aurait dû le faire. Hein. Donc ici, bon, c'est une manière, ça s'est vraiment passé, c'est une manière de dire, attention, on peut, par notre attitude, par notre manière d'approcher la parole de Dieu, induire aussi, enseigner aussi quelque chose aux autres. Quand on dit ça, c'est pas, oh, c'est, oui, ça veut pas dire ça, non. Eh bien, on enseigne aussi. Non seulement on le fait pour nous-mêmes, mais on enseigne aussi pour les autres. Et Jésus dit, attention, celui qui agit de cette manière-là sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui va s'atteler à considérer l'ensemble de l'écriture, qui acceptera tout comme venant de Dieu, l'inspiration totale, verbale, de la parole de Dieu, et qui enseignera les autres aussi à croire à cette inspiration totale de la parole de Dieu, à cette autorité pleine et entière de la parole de Dieu, eh bien, celui-là, il dit, sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc, on verra ce que cela veut dire, mais en tout cas, cela est un avertissement, en tout cas, pour nous, à être vigilant sur la manière d'utiliser la parole. Et puis, troisièmement, je veux dire, Jésus parle aussi de la justice qui est exigée par la loi. Au verset 20, il parle de la justice qui est exigée par la loi. Donc, Matthieu chapitre 5 et au verset 20, il dit, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc maintenant, Jésus fait clairement référence aux scribes et aux pharisiens. Je crois que c'était sous-jacent depuis le verset 20 quand il commence à parler, le verset 17 quand il commence à parler, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi. Et quand il dit que si quelqu'un enlève quelque chose de la loi, on sait que, quand on a lu l'évangile, que les pharisiens le faisaient, mais maintenant ils sont nommés, clairement. Voilà. Et il dit ici, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Les scribes, qui étaient les scribes? Les scribes, c'était des lettrés, on pourrait dire, qui étaient consacrés à l'écriture, la réécriture des textes. C'était des érudits, des spécialistes du texte qui se donnaient entièrement à l'étude et à l'enseignement et à l'interprétation de la loi. Et à l'époque de Jésus, ils avaient une certaine influence sur le peuple. Et en général, quand on lit les évangiles, on voit qu'ils se sont opposés à l'enseignement de Jésus. Les pharisiens, eux, étaient, leur nom, ça veut dire séparés. Donc, c'était des séparatistes. Hein. Vous comprenez ça si vous écoutez la politique et tout ça. Les séparatistes, vous voyez comment ils agissent. Bien, ici, c'était des séparatistes qui formaient une secte extrêmement rigide. L'apôtre Paul faisait partie des pharisiens. Et il dit lui-même qu'il a appartenu à la secte la plus rigide, hein, de sa religion. Lorsqu'il donne son témoignage devant Agrippa. Donc, et ils avaient, ces gens avaient ramené la religion à l'observation de lois, et ils disaient que Dieu accorde sa grâce à ceux qui se conforment à ses ordonnances. Et ils ont même érigé beaucoup de préceptes à côté de cette loi, qu'ils ont tiré à partir de la loi. Et c'est pour ça que Jésus, ils obligeaient les gens du peuple à observer les lois qu'ils avaient érigées à partir de la loi de Dieu, les préceptes qu'ils avaient érigés à partir de la loi de Dieu. Et Jésus disait dans Luc 11, il dit, malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter. C'est un petit peu ça, ce qu'il leur dit. Ils avaient ajouté des lois à la loi de Dieu pour essayer, voilà, d'être encore, selon eux, plus juste. Que dit donc Jésus à ses disciples? Il dit, car Je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il dit premièrement qu'il vous faut une justice. Vous devez vivre une vie juste. Et la vie qu'il décrit, juste qu'il la décrit après, à partir du verset 21, quand il dit, vous avez appris qu'il est dit, tu ne tueras point, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère est passible du jugement, etc. Donc il donne toute une ligne de conduite, et il dit, vous devez avoir une justice, mais votre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, disait Jésus, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Donc qu'est-ce qu'être au-dessus de la justice des pharisiens et des scribes? Qu'est-ce que surpasser cette justice? Eh bien, la justice exigée ici, dit Jésus, ne consiste pas seulement en acte extérieur. On le comprend quand on lit la suite. Ce n'est pas simplement le fait d'avoir des actes extérieurs, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, qui constitue une véritable justice. Quand il dit « Malheur à vous, scribes et hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors », c'est-à-dire l'extérieur, mais vous oubliez le dedans, c'est-à-dire le dedans est plein de rapines et d'intempérance. Donc, ils multipliaient leurs efforts pour faire de mieux en mieux de manière extérieure, mais ils oubliaient le dedans, la disposition intérieure du cœur. Vous vous rappelez de la prière de ce pharisien et ce publicain qui arrive au temple. Dans sa prière, il dit, je jeûne, combien de fois? Deux fois, il dit, quoi? Par semaine. Ça, c'est un exemple. La loi ne demandait pas de jeûner deux fois par semaine. Je disais qu'on demandait une fois par an. Mais les scribes et les pharisiens avaient, pour montrer tellement ils étaient attachés à la loi de Dieu, ils avaient multiplié les choses. Et cet homme dit, je jeûne deux fois par semaine. Voilà la justice que je présente ici à Dieu. Il n'est pas difficile pour nous non plus de faire des efforts pour paraître afin que les autres puissent avoir une bonne image de nous-mêmes. Nous pouvons passer beaucoup de temps à user beaucoup d'efforts pour nettoyer le dehors, mais et on parvient parfois à la maîtrise du geste un peu. On parvient à se modérer, à ne pas parler trop durement, à ne pas se mettre en colère, à montrer une certaine piété. Et c'est ça que ces hommes faisaient. Mais on peut citer des passages bibliques, on peut mémoriser, on peut participer activement à la vie d'une église. On peut faire beaucoup de choses qui sont des manifestations extérieures. Et on peut dire comme les pharisiens, eh bien, je fais ceci, je me lève à 5h le matin pour lire ma Bible, pour méditer, ou je participe à l'évangélisation. J'ai lu la Bible en une année, même deux fois en une année. On peut faire beaucoup de choses comme cela qui ne sont pas mauvaises à faire, mais que l'on brandit comme notre propre justice. Et Jésus va montrer que la justice dont il parle et qui doit surpasser celle des scribes et des pharisiens doit provenir d'un cœur transformé. Ce ne sont pas simplement des actes, mais ce sont des actes qui proviennent d'un cœur transformé. C'est pour ça qu'il dira, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Et cet homme qui priait, il dit, je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, adultères. Voilà. Et certainement, il ne commettait pas d'adultère, cet homme. Mais Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est-à-dire, il part du fruit de l'arbre, il va jusqu'à la racine, il dit, c'est là qu'il faut aller regarder. Il dit, la justice que vous devez avoir, c'est une justice qui doit trouver sa source dans un cœur transformé. Bien sûr, il ne faut pas commettre l'adultère physiquement, mais ça n'est pas suffisant. Ça, c'est la justice des pharisiens. Celle qu'exige la loi, dans l'Ancien Testament, elle demande une pureté du cœur. Et il dit que c'est là qu'il faut regarder. Donc l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, et c'est pour ça que nous faisons des efforts pour l'extérieur, parce que nous voulons épater ceux qui nous regardent. Mais la Bible dit que Dieu regarde au cœur. On peut changer l'extérieur assez facilement. On peut contrôler l'extérieur. Mais le cœur, on ne peut pas le changer. Ce qu'on est dans le cœur, on ne peut pas le changer. On égoïse le cœur, on ne peut pas changer notre orgueil, on ne peut pas changer notre cœur. Il faut que Dieu nous donne lui-même un cœur différent. Donc Jésus dit la justice des pharisiens, c'est comme s'il disait une justice du corps seulement et pas une justice du cœur. Donc il faut une justice du corps, des gestes, des attitudes, des paroles qui soient motivées par une justice qui a pris place dans le cœur. La justice, deuxièmement, exigée aussi ici, elle a la loi de Dieu pour standard et non l'interprétation de la loi. Ce que faisaient ces pharisiens, c'est qu'ils avaient remplacé la loi de Dieu par leur interprétation ou leur tradition de la loi. On a un exemple de cela en Matthieu chapitre 15. Regardez avec moi Matthieu chapitre 15, parce que c'est un exemple assez frappant. Matthieu chapitre 15 et au verset... Matthieu chapitre 15, et nous pouvons lire au verset 1 à 6, oui, il dit à Matthieu chapitre 15, « Alors les pharisiens et les scribes, il y a toujours des pharisiens et des scribes, vous voyez, toujours ce corpus-là était assez fort. Hein. « Alors les pharisiens et les scribes vinrent à Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgresse-t-il la tradition des anciens ?» Vous comprenez bien que ils sont pas en peine des disciples ici. Hein? C'est Jésus qu'ils visent à travers ses disciples. Quand tu dis quelqu'un, pourquoi tes disciples ? Pourquoi tes enfants ne font pas ça ? Ça veut dire que c'est à nous qu'on parle directement. Mais c'est un petit peu la même chose qu'ils font ici. Alors, on continue la lecture. Pourquoi tes disciples transgresse-t-il la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous ? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Il dit, voilà, Dieu dit, honore ton père et ta mère. Mais vous, vous dites... Alors, bien sûr, il y avait dans la loi, il semble que... cette possibilité de dire, voilà, ce avec quoi j'aurais pu soutenir, en gros, hein, mes parents, bon, je l'ai offert à Dieu, je l'ai déjà offert, donc je ne peux pas apporter une aide parce que je l'ai consacré. Hein. Mais il dit, vous, ce que vous faites... C'est que vous avez érigé ça en tradition, et puis vous donnez aux gens, parce que eux ne voulaient pas, bien sûr, aider leurs parents, et la motivation, c'est que vous ne voulez pas aider vos parents, et vous donnez aux gens la possibilité de dire, à leurs parents, je peux pas t'aider, parce que, voilà, c'est consacré à l'Éternel. Ils ont érigé ça en tradition. Merci beaucoup. Ils ont érigé cela en tradition. Tu auras une récompense dans le ciel, Mathias. Par exemple, en Marc chapitre 7, verset 12, Jésus reprend la même chose et dit, vous empêchez les hommes d'aider ainsi leurs parents. Marc 7, verset 12, en prenant ce même exemple. Donc il dit, ici, voilà, vous avez érigé les choses en tradition et vous avez mis votre tradition maintenant à la place de la parole de Dieu. Donc c'est plus honore ton père ou ta mère qui vient premier, c'est ce dont j'aurais pu t'assister, je l'ai donné à Dieu. Et il dit ainsi, c'est votre tradition qui a pris la place de la parole de Dieu. Même si ce qu'ils disent ici vient en partie de la parole de Dieu, mais ils l'ont érigé et ils l'ont mis au rang de la parole, même au-dessus de la parole de Dieu. Et on a tendance aussi à agir comme cela. Les gens nous disent parfois, moi c'est comme ça que j'interprète ce passage. Quand on lit un passage de la parole de Dieu, il dit c'est comme ça que j'interprète ce passage moi. Moi, ce que je crois, c'est mon interprétation. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Et on finit par mettre notre interprétation avant la parole de Dieu. Et en réalité, c'est plus facile de suivre une interprétation que nous avons faite que de suivre la parole de Dieu vraiment. Comme ces juifs et ces pharisiens, c'était plus facile pour eux de suivre leur interprétation que d'honorer leurs parents comme il le fallait. Donc Jésus montre ici que la justice qu'il exige, elle doit avoir la loi de Dieu comme standard, toujours, et pas notre interprétation ou nos traditions de la loi de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut la connaître, qu'il faut la lire, qu'il faut la méditer, pour connaître cette parole et nous y soumettre. Et puis, il dit aussi que la justice exigée, enfin il ne dit pas, mais je veux dire, on pourrait dire aussi que la justice qui surpasse celle des pharisiens, c'est une justice qui glorifie Dieu et non l'homme. Dans la justice des pharisiens, on le lit très facilement, ils étaient attachés à la gloire qu'ils pouvaient recevoir des hommes. Dans Luc 16, Jésus dit aux scribes et aux pharisiens, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Il dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Et Jésus déclare clairement que la recherche fondamentale vraiment des pharisiens, ici, c'est l'approbation des hommes. Et Jésus la condamne. Il dit que la justice dont il parle doit surpasser donc celle des pharisiens en cherchant l'approbation de Dieu. Et Dieu, il regarde où? Il regarde au cœur. Et donc, c'est le cœur qu'il faut lui donner. Regardez cela un peu, parler du cœur dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11 et au verset 39. Luc chapitre 11, verset 39. Je reprends cette même chose qu'on a vu tout à l'heure en disant, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et le plat à l'intérieur. À l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé. Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait le dedans? Dieu voit aussi l'intérieur du cœur. Il dit, donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Et donc, si vous commencez par travailler et donner ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, chercher un cœur pur, chercher une relation avec Dieu, eh bien, le reste sera purifié même. Les aumônes, etc., auront une véritable valeur. Mais si tout ce que vous faites, c'est de développer des actions extérieures pour attirer pour vous faire justice devant les hommes et chercher leur approbation, eh bien, il dit, c'est une abomination devant Dieu. Donc, n'essayons pas de briller devant les hommes en disant, moi, je suis, moi, je ne fais pas ceci, moi, je ne commets pas l'adultère. Ça, c'est, quand on parle de cette manière-là, c'est une manière de se justifier devant les hommes. Ici. On doit chercher une justice qui glorifie Dieu. Et puis aussi, la justice qui est exigée ici caractérise, on peut le voir, les citoyens des cieux. Il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et Jésus dit que ceux qui sont citoyens des cieux sont caractérisés par une telle justice qui surpasse la justice des pharisiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que la justice qui surpasse celle des pharisiens, c'est celle qui ne lutte pas contre les mauvais penchants extérieurs. Ils disent simplement que la justice qui surpasse celle des pharisiens, c'est celle qui, bien sûr, lutte contre les penchants extérieurs, mais avec l'énergie d'un cœur renouvelé. C'est ça, avec une pureté de cœur. Et ça caractérise ceux qui appartiennent au royaume des cieux. Là où ça manque cruellement, on n'a pas de certitude d'appartenir au royaume des cieux. D'accord. Donc si ça manque déjà dans les gestes, ça veut dire que ça manque dans le cœur. Okay. Donc il faut que le cœur soit transformé. Mais c'est pas parce que c'est dans les gestes seulement que c'est suffisant. Il faut s'assurer que le cœur appartienne au Seigneur. On ne peut pas présenter une quelconque justice à Dieu. On peut suivre beaucoup de lois, beaucoup de règles, se plier à beaucoup de choses, venir tous les dimanches, tous les mardis, ce que vous voulez. Ça ne suffit pas comme justice devant Dieu. Il faut que le cœur en tout entier soit à lui. Donc la justice que Jésus exige, qui surpasse celle des pharisiens, caractérise ceux qui appartiennent vraiment au royaume de Dieu. Je voudrais juste terminer avec quelques conclusions là-dessus, quelques applications. Premièrement, dire que l'Ancien Testament doit être tenu en haute estime dans notre cœur. C'est difficile, parfois, on repousse de côté, mais toute la Bible, comme le Nouveau Testament, l'Ancien Testament doit être tenu en haute estime dans notre cœur. Nous devons mettre un soin constant à lire et à étudier la Bible tout entière, y compris le Nouveau Testament. C'est important pour chaque enfant de Dieu. Ça, c'est une des premières choses que nous pouvons voir. Nous sommes réticents parfois à le faire, réticents à plonger dans le Lévitique ou dans Exode, etc. Mais l'Ancien Testament est important pour nous. Lorsque Jésus rencontre ses disciples d'Emmaüs, vous vous rappelez, sur le chemin d'Emmaüs, dans Luc chapitre 24, la Bible dit qu'il les entretient des choses qui le concernent. Et il dit, Luc 24, 27, « Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Qui concernait qui ? Qui concernait Jésus-Christ. Donc tout ce qu'il avait, il n'y avait pas de Nouveau Testament, hein, d'accord ? Tout ce qu'il avait, c'était les textes de l'Ancien Testament. Et il dit que Jésus, à travers ces textes, Moïse, la loi et les prophètes, hein, on revient, hein, la loi et les prophètes, il montre que la loi et les prophètes parlaient de lui. Hein, et que tout ce que la loi et les prophètes racontent concerne Jésus-Christ, l'Évangile. D'accord ? Lorsque Philippe rencontre l'eunuque éthiopien, il avait quel livre à la main ? Ésaïe. Et la Bible dit qu'il commence par Ésaïe et il lui annonce la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile. Il y a Ésaïe, il lui annonce la bonne nouvelle avec Ésaïe. D'accord ? Et l'Église primitive avait quoi ? L'apôtre Paul, il avait quoi quand ils avaient les textes de l'Ancien Testament. C'est à partir de l'Ancien Testament que tout l'enseignement, lorsque la Bible dit que Paul persuadait les gens par les Écritures que Christ est bien celui qui devait venir, que Jésus est le Christ, eh bien, c'était avec les textes de l'Ancien Testament qu'il le faisait. Donc nous ne devons pas mettre de côté l'Ancien Testament et puis dire nous sommes des chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous devons considérer que le Nouveau Testament. Toute l'Écriture est inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Il y a un auteur, il s'appelle Gisera, il dit ceci. La religion de l'Ancien Testament est l'embryon du christianisme. L'Ancien Testament est l'évangile dans le bourgeon. Le Nouveau Testament est l'évangile en pleine fleur. Il dit. Et il ajoute, beaucoup d'infidélité commence par le mépris ignorant de l'Ancien Testament. Et donc, il nous faut lire l'Ancien Testament, la loi de l'Ancien Testament, hein, pour que nous puissions saisir les choses qui nous concernent. Regardez ce que la Bible dit dans Galates chapitre 3. Nous avons lu ça tout à l'heure, mais Galates chapitre 3, l'apôtre Paul pose une question. Alors, je vous invite à le lire à la maison si vous n'avez pas, on n'a pas le temps de tout lire ici, mais Galates chapitre 3. Et au verset 19, il dit, pourquoi donc la loi? Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse a été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen de médiateurs. Or, le médiateur n'est médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là, s'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ. Donc, on peut dire que la loi, elle sert à quoi? Sert afin de révéler la transgression du péché, à limiter les hommes dans leur péché, mais aussi à manifester le péché comme une transgression. Regardez après ce qu'il dit, ici il dit, donc l'Écriture a tout renfermé dans la loi, sous le péché, verset 22, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue, un précepteur, pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Il dit que, ici, le ministère de la loi, c'est vraiment de nous faire sentir tout le poids de notre culpabilité, de notre péché. Dieu a tout enfermé là-dedans, pour que nous puissions être conduits à Christ. Avant d'être conduits à la grâce, nous avons besoin de saisir que nous avons besoin de grâce. Nous avons besoin de savoir que nous sommes pécheurs. Si tu as quelqu'un, Jésus veut te sauver, il va vous dire, de quoi il veut me sauver. D'accord? Donc, l'enseignement de la loi et des exigences de la loi de Dieu est extrêmement important pour que nous puissions saisir la nécessité de la grâce de Dieu. Nous avons besoin d'être enseignés de la loi, et ça, l'Ancien Testament nous le révèle pleinement. C'est pour ça que quelqu'un disait que Jésus n'est pas, que Dieu n'est pas passé de la promesse faite à Abraham à la venue de Jésus-Christ. Pourquoi ? Tout ce temps, c'est pour former l'esprit des gens et les faire prendre conscience de cette loi de Dieu qui a été transgressée, le péché et la transgression de la loi. Et le péché mérite la mort. Et si on ne comprend pas que le péché mérite la mort, bien, on peut pas comprendre grand chose. Et les sacrifices de l'Ancien Testament, c'était pour montrer que le péché entraîne la mort et demande à ce que le sang soit versé pour, en réparation. Et quand on lit cela, on comprend qu'en filigrane, derrière, il y a la nécessité d'un substitut de Jésus-Christ qui va venir comme sacrifice expiatoire pour nos péchés. Donc, tout ce qui est écrit dans la loi, est là pour conduire, la Bible dit, jusqu'à Christ. Ici. Donc, l'évangile, deuxièmement, donc c'est important donc de lire, hein, et de tenir en haute estime l'Ancien Testament. L'évangile, deuxièmement, n'est pas l'abolition de la loi, mais sa confirmation. L'évangile n'est pas l'abolition de la loi, mais sa confirmation. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 3, 31, dit, anéantissons-nous ou abolissons-nous la loi par la foi, loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Et je vous propose d'écouter un commentaire là-dessus qui est très bien écrit d'un homme théologien et commentateur qui s'appelle Charles Hodge. Il dit, si la loi désigne l'Ancien Testament en général, il est vrai de dire que le moyen de salut proposé par l'Évangile ne contredit aucune de ses déclarations, n'est incompatible avec aucune de ses doctrines, n'infirme aucune de ses promesses, mais il s'harmonise avec elles et les confirme dans leur ensemble. S'il s'agit des institutions mosaïques en particulier, ces instructions étaient des ombres dont Christ est le corps. La loi, dans ce sens, est abolie non par qu'elle soit déclarée mauvaise ou impuissante, mais parce qu'elle a, dans l'Évangile, trouvé son accomplissement et atteint son but. Ce qu'elle enseignait ou promettait, l'Évangile l'enseigne et le promet, seulement d'une manière plus claire et plus complète. Enfin, s'il est question de la loi morale, c'est sans doute dans ce sens que Paul, quand il dit confirme la loi. Ici, il s'agit donc de la loi morale. Sans doute, c'est ce que Paul a principalement en vue. Celle-là encore n'est pas invalidée, mais au contraire affermie. Nulle obligation morale n'est affaiblie, nulle sanction pénale méconnue. Les préceptes sont appuyés de motifs nouveaux et puissants. Et la pénalité se trouve sanctionnée dans celui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, c'est-à-dire Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et à jamais. Voilà, donc quand il dit, nous n'anéantissons pas la loi par la foi, mais la foi accomplit tout ce que la loi contient. Et ce que la loi contient est accompli en Jésus-Christ. Et puis, je termine en disant que les exigences, troisième point, conclusion, les exigences élevées de la justice de Dieu nous poussent vers Christ. Les exigences élevées de la justice nous poussent vers Christ. Jésus expose clairement que ce qui est en jeu, ça n'est pas une question de conduite extérieure, mais de cœur, de besoin, de changement du cœur. Quand il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que si un homme regarde une femme, il a commis l'adultère. Eh bien, il dit, ce problème, c'est un problème de cœur et de nature, c'est pas un problème d'acte. Votre problème, c'est un problème de nature, de cœur qui doit être transformé. Et ça, seul Christ peut le faire. Une telle justice supérieure ne peut être produite que dans un cœur transformé. Et autant, on l'a dit tout à l'heure, autant on peut modifier nos comportements, autant on ne peut rien faire pour changer notre cœur. Et donc, en somme, Jésus fait prendre conscience à ses disciples des exigences hautement élevées de la loi de Dieu, afin de détruire vraiment toute illusion, comme celle qu'avaient les scribes et les pharisiens, qui voulaient présenter leur justice et se persuader qu'ils étaient justes devant Dieu. Lorsque Jésus s'approche du jeune homme riche, vous savez, il lui dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Puis Jésus lui dit, qu'y a-t-il dans la loi? Qu'as-tu lu? Tu aimeras ton père? Et lui, il dit, j'ai observé ces choses, toutes ces choses, dès ma jeunesse. Et Jésus lui dit, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. C'est-à-dire, là, il touche le cœur qui était possédé. Il avait observé beaucoup de choses avec ses doigts, mais avec son cœur, Jésus dit, va. Et Jésus dit après ses disciples, il est plus facile de faire passer un chameau par le trou d'une aiguille qu'un riche que le faire entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples disent, oh, qui peut être sauvé? C'est-à-dire, c'est un peu ce que fait là. Jésus montre l'exigence. Et puis, quand il exprime cette exigence, les disciples disent, mais qui peut être sauvé? Là, on est arrivé, il n'y a plus aucun espoir, personne. Qui c'est qui peut avoir un cœur tel? Et Jésus dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et il dit, c'est à Dieu qu'il faut venir pour avoir un cœur changé, qui n'observe pas simplement de manière extérieure les choses, mais qui puisse être capable de vendre s'il faut vendre, un cœur libéré de toutes les possessions, un cœur qui appartiennent vraiment à Dieu. Donc, les exigences élevées que présente Jésus poussent vers Christ, parce que lui seul peut transformer le cœur. Jésus révèle donc la nature élevée de la justice de Dieu, mais il révèle aussi qu'il est celui qui est venu pour l'accomplir à pleinement et celui qui peut nous la donner. Donc, il nous pousse à regarder à lui. Que le Seigneur nous aide et à vivre pour lui une véritable justice et que notre justice dépasse celle des scribes et des pharisiens en nous poussant à aller d'abord vers Christ pour notre salut, si vous ne le connaissez pas encore. Mais aller aussi vers lui, dans sa parole, dans la relation avec lui, afin que nous soyons nourris, fortifiés pour vivre une réelle vie de justice. Et que nos cœurs, nos pensées puissent être vraiment lavés, purifiés par l'eau de sa parole. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole, qui est la vérité. Merci pour cet enseignement. Merci parce que tu nous montres combien est importante, permanente, cette parole que tu nous as laissée, que rien ne disparaîtra avant que tout ne soit accompli. Et nous te remercions d'avoir envoyé ton Fils qui a été qui est l'accomplissement même de toutes choses et qui a pris la pénalité imposée par la loi, qui a subi la malédiction de la loi pour que la bénédiction d'Abraham soit accomplie par lui en nous. Nous te remercions, Seigneur, pour ces choses qui nous dépassent, mais qui sont vrais parce que ta parole nous le dit. Nous te prions pour que tu nous aides à aller vers toi, Seigneur, à ne pas nous contenter d'une justice, d'un formalisme extérieur, mais que ce soit avec des cœurs vraiment disposés à t'obéir, désireux de te plaire, que nous nous écartions du mal. Nous n'avons aucune puissance en nous-mêmes, aucune force en nous-mêmes. Nous sommes faibles et nous ne sommes pas mieux que les pharisiens et les scribes. Et nous voulons reconnaître que nous avons besoin de toi. Aide-nous. Viens à notre secours, nous t'en prions. Ton nom est pour ta seule gloire. Amen.